L'invité de Matin Première, Romain Cornet, reçoit ce matin la secrétaire de la francophonie, la canadienne d'origine haïtienne, Michaëlle Jean.
Michaëlle Jean, bonjour.
Bonjour.
La francophonie, c'est 80 pays sur tous les continents, mais concrètement, à quoi sert l'Organisation internationale de la francophonie? Comment est-ce qu'on peut expliquer son action concrètement?
Alors déjà, le fait que nous soyons 80 États et gouvernements sur les 5 continents, c'est une force. C'est une force parce que nous regroupons des pays qui sont à la fois des pays très avancés, avec plein de moyens, des pays en émergence, des pays en développement, des pays moins avancés. Mais c'est une force de solidarité incroyable et une force d'expérience et de solution. Nous commerçons ensemble, nous sommes là aussi solidairement ensemble.
Donc il s'agit de provoquer des rencontres entre, par exemple, les acteurs économiques. Je sais que c'était un des axes de votre mandat. Vous vouliez rendre l'Organisation internationale en francophonie plus axée sur les questions économiques
Mais
qu'avant.
Mais plus que provoquer des rencontres, les rencontres sont importantes parce que ça nous permet aussi de voir ces champs où nous pouvons avancer ensemble, ces champs d'action, sur des programmes, par contre, concrets. Vous prenez la crise migratoire. Nous, nous sommes un espace de pays qui sont à la fois des pays de départ, de transit, de destination, éventuellement d'accueil. Et notre posture, c'est de dire il faut agir à la source même du problème. Par exemple, quand je parle de pays de départ, beaucoup de ces pays sont des pays d'Afrique subsaharienne. Alors on s'est dit, il faut absolument créer des possibilités qui permettent aux gens de trouver un épanouissement et des opportunités, faire en sorte de redonner espoir à ces populations. Parce que vous savez, moi j'ai eu à le vivre aussi personnellement. De voir, j'étais réfugiée moi dans ma vie, quand vous êtes poussée par un sentiment d'impasse, le sentiment qu'il n'y a pas d'avenir, l'avenir est bouché pour vous, vous pensez que l'avenir est ailleurs, c'est avoir à se reconstruire, repartir à zéro, c'est tragique comme situation. En plus, ça dépossède ces pays de départ d'une force vive qui est essentielle, donc ce pays devient exsangue de toutes ces femmes, ces jeunes qui participent de l'énergie nécessaire pour la croissance. Donc, nous déployons un réseau d'incubateurs et d'accélérateurs de très petites et moyennes entreprises et industries. Nous rassemblons les conditions qu'il faut pour la formation, l'éducation, donc il faut rehausser les compétences et les capacités. Après discussion avec les pays qui disent, bon, voici les filières que nous voulons développer. Et nous sommes là pour accompagner les pays. Nous rassemblons des moyens, nous discutons avec des institutions financières comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Dans le concret, la francophonie, c'est ça. La francophonie, c'est aussi sa force politique. Nous avons quantité de pays, par exemple, qui entrent en élection. Une élection, c'est ce qui inspire confiance quand elle se passe dans un climat apaisé, dans les règles.
Mais pour prendre le cas concret, par exemple, le Burundi, qui, on sait, connaît une grave crise avec des violences depuis que le président Nkurunziza a donné l'impression, en tout cas, de vouloir s'accrocher au pouvoir et de se présenter à nouveau comme candidat. Est-ce que la francophonie a des leviers pour faire pression sur un pays
Absolument. Nous avons placé le Burundi sous observation. C'est déjà une première semence. C'est dire quelque chose ne va pas. Et nous lançons des messages clairs et en discussion aussi avec les autorités, avec la classe politique, avec la société civile sur la nécessité d'en arriver à un dialogue. Parce que c'est la seule façon de sortir de cette crise. Ce qui se passe là est grave, est gravissime. Regardez tous ces gens qui ont dû fuir. Nous sommes là constamment à revenir à la charge pour faire en sorte que l'on puisse arriver à des solutions.
Sur des questions comme les flux migratoires, on imagine quand même qu'il y a des visions extrêmement différentes entre une Union européenne qui verrouille ses frontières et les pays du Sud.
Sous ce discours d'austérité qui est pratiqué partout, on oublie la nécessité aussi de répondre solidairement. Là où l'on peut accueillir, il faut le faire avec cœur. Moi, ce qui a fait la différence dans mon expérience, lorsque nous avons eu à le vivre, ma famille et moi, et comme des milliers d'autres familles en provenance d'Haïti, nous avons trouvé au Canada un pays qui, d'une part, n'était pas indifférent. Un pays où tout était là pour vous accompagner pour une intégration réussie. C'est-à-dire que chaque fois que nous avions une difficulté, il n'y avait pas que les ressources mises de l'avant par l'État, par les gouvernements. Il y avait aussi le citoyen qui était là solidaire et qui disait « vous n'êtes pas seul ».
Dans cette histoire personnelle, on comprend, vous êtes né en Haïti, vous êtes parti enfant vers l'âge de 10-11 ans, je pense, avec vos parents fuyant la dictature à l'époque en Haïti. Avec cette histoire personnelle, quel regard est-ce que vous posez sur l'attitude des pays européens? Parce que finalement, là, on parle de l'Afrique, c'est sûr qu'on peut développer et saisir des opportunités. Vis-à-vis des réfugiés qui fuient la guerre en Syrie, par exemple.
Venant du Canada, je peux témoigner d'une chose. Le Canada s'est construit, justement, par la force de tous ces gens qui sont venus de partout ailleurs dans le monde, et notamment d'Europe, parce qu'ils cherchaient un meilleur avenir ailleurs. Si vous saviez, le Canada, ce sont tous ces gens qui ont trouvé refuge là, qui ont pu se reconstruire, et qui ont trouvé un lieu où on a fait confiance à ce qu'ils avaient à offrir pour édifier cette société qui est forte de sa cohésion sociale, du fait que nous sommes une société, par exemple au Canada, où nous ne voyons pas la diversité comme un problème, mais comme une solution, comme une chance.
Vous êtes au Canada devenu une sorte de symbole, puisque vous avez accédé jusqu'aux plus hauts échelons de l'État, comme gouverneur général du Canada, mais vous êtes aussi un visage connu de la télévision, puisque vous avez été journaliste. Est-ce que, finalement, votre histoire ne démontre pas un peu que l'intégration, elle doit se produire dans les deux sens, et aussi être pensée en termes de moyens qu'un État peut donner à l'intégration ?
Qu'on se souvienne d'une chose. Si les Européens se souvenaient que dans toutes les épreuves vécues par l'Europe, ils sont aussi passés par là. Par milliers des Européens ont trouvé ça dans un pays comme le Canada ou ailleurs. Donc vous l'avez déjà vécu. Alors pourquoi cette amnésie? Pourquoi cette indifférence? Et si ils regardaient ceux qui aujourd'hui viennent frapper à leur porte et se disaient « ça pourrait être moi » ou « ça a déjà été moi ». Ça a déjà été mon grand-père, mon arrière-grand-père, ma grand-mère. C'est ça. Il faut réhumaniser notre regard sur cette situation et se dire qu'il n'y a pas que eux et l'autre, c'est nous tous. Mmh. Donc, d'une part, créer les conditions pour que les gens n'aient pas à vivre ces exodes, n'aient pas à se retrouver la proie de ces passeurs sans foi ni loi, de ces embrigadeurs sur des idéologies de destruction. Hein ? Créer les conditions en créant de l'espoir, des possibilités, emploi, emploi, emploi. C'est pas compliqué. Mmh. Et en même temps, quand on peut accueillir, et on doit accueillir aussi, ne pas être indifférent. Ne pas voir l'autre comme un danger, comme un fardeau, et se dire, tiens, il y a aussi quelque chose, on n'arrive pas les mains vides. Moi, je sais, nous sommes passés par là, je suis devenue gouverneur général du Canada. J'ai été réfugiée avec ma famille. Et je vous dirais que là où l'on mesure aussi, je dirais, une bonne intégration, une capacité d'accueillir, c'est quand vous voyez aussi tous ces citoyens venus d'ailleurs, qui sont aujourd'hui parmi les décideurs et qui sont devenus une force économique pour la production, pour la création. Et ça, ça vient d'une volonté. Eh bien, je trouve qu'il y a tout en Europe en ce moment pour permettre aussi que l'Europe soit un lieu, et il l'est déjà, qui a su profiter de ce que d'autres venus d'ailleurs ont eu à offrir.
Vous êtes à Bruxelles pour rencontrer les institutions européennes. Est-ce que ça, c'est le genre de message que vous avez l'occasion de leur passer?
Oui. Les défis avancent à un rythme tellement affolant, hein, que ce soit sur le plan sécuritaire, du développement, des crises, catastrophes naturelles, tout ce que vous voudrez, qu'il faut que notre capacité aussi de réagir change de régime. Et pour ça, il faut que nous travaillions davantage ensemble et de manière coordonnée. Notre sort est lié parce qu'il y a un tel gaspillage d'énergie. Il y a un tel poids que l'on fait même peser sur certains pays parce que nous n'avons pas harmonisé non plus même nos critères. Parce que nous aussi, il faut que nous nous posions des questions. D'une part sur ce qui nous explose au visage. Même dans nos sociétés, très souvent, ce sont des situations de précarité qui donnent des munitions à ceux qui viennent pour embrigader. Il faut aussi voir comment on inclut. Et en même temps, il faut une stratégie qui soit transnationale. Moi, ce que j'aime dans l'espace francophone, c'est que nous arrivons avec des propositions, nous arrivons avec des solutions. Nous travaillons, par exemple, dans l'accompagnement du processus électoral dans les pays. C'est essentiel parce que cet exercice-là, dès lors qu'on le réussit, c'est une garantie. Les investisseurs ont envie d'aller vers vous. Ils savent qu'ils vont trouver, parce qu'il y a un état de droit fort, des institutions fortes, ils vont trouver des garanties.
Vous pensez que l'image, par exemple, de l'Afrique est en train de changer, dans certains pays en tout cas, et que les investisseurs perçoivent peut-être différemment certains pays?
Non seulement ça, il y a par exemple, puisque vous parlez de l'Afrique, on a toujours l'impression ici en Europe, quand on parle du Sud, c'est l'Afrique. Mais nous sommes partout, nous sommes aussi sur le portail asiatique avec les pays du Mékong, les Amériques, avec même des pays latino-américains qui joignent l'espace francophone. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est une plateforme. C'est une plateforme extraordinaire de possibilités, de corridors économiques pour échanger, pour commercer. Et le français est la troisième langue des affaires dans le monde. Ça, on l'oublie, hein, on l'oublie. Et j'ai envie aussi que l'Union européenne et la Commission européenne l'entendent, qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la force du français.
Vous pensez qu'il la sous-estime ou que le français est un peu oublié dans les institutions européennes?
On voit bien en ce moment que le tout en anglais est en train de gagner les institutions. Hein. Et ça, c'est un problème.
C'est aussi un combat de l'organisation de
la francophonie. Bien sûr, parce que ça crée un déficit de perspective. Ça crée un déficit au niveau de la démocratie internationale, de la pleine participation de tous. En plus, c'est déroger aux obligations de ces organisations qui sont que le français, comme l'anglais, est une langue de travail, une langue d'expression, de publication et tout. C'est essentiel, ça. Donc, je me dis que ce qui est en train de changer, puisqu'on parlait de l'Afrique, c'était ça votre question, on voit beaucoup aussi une nouvelle génération de professionnels africains qui ont étudié ailleurs, en Europe, au Canada, aux États-Unis, qui reviennent. Ça, c'est en train de changer une donne. Les forces sont là. Et en plus, il y a une approche décomplexée. Ils sont conscients de leurs forces. D'autre part, les populations sont en train de changer. Les populations sont plus exigeantes. Ce sont de vraies vigies. Ce qui s'est passé au Burkina Faso est très révélateur. Vous avez des populations qui ont dit, de tout leur courage, on ne peut pas confisquer nos institutions. Et quand on revient avec des méthodes de notre temps, un coup d'État militaire, de voir des jeunes Burkinabés dire « Non, ça ne passera pas !» Eh bien, c'est formidable. Ça, c'est de l'espoir.
Merci beaucoup, Michaël Jean, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Merci Romain Cornet. 7h53 sur la première. Dans quelques instants, le café serré, il vous est servi par Guillermo Guise. On est jeudi.
Matin première.